autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les plus grands mystères de l'univers. La naissance et la mort des galaxies, la présence de trous noirs supermassifs, l'énigme de la matière noire. Autant de questions vertigineuses qui sont le quotidien de notre invitée, l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France, formidable exploratrice du cosmos, qui vient de recevoir la médaille d'or du CNRS 2020. Et pour cause, car mine de rien, cette petite brunette au regard lumineux et au sourire généreux est une extraordinaire chasseuse de molécules intergalactiques qui fait l'unanimité dans la communauté des astrophysiciens et des cosmologistes du monde entier pour l'importance de ses découvertes et de ses recherches, mais aussi pour la façon dont elle sait nous faire passer l'inconcevable, le sidéral, le sidérant, avec tant de simplicité et d'humilité. Nous sommes très heureux, en ce 11 novembre, d'être en direct avec Françoise Combes autour de la question « Comment percer les secrets du cosmos et de la matière noire ?» Bienvenue dans notre galaxie.
Ces notions d'énergie noire, de matière noire, bah, c'est un peu comme l'infini finalement, mais c'est des choses qui sont inventées pour répondre à des questions, mais dont on n'est pas du tout sûr qu'elles existent. Ce sont en quelque sorte des fictions, et il y a beaucoup de physiciens, d'astronomes qui cherchent à donner une réalité à ces fictions, mais à mon avis, c'est pas du tout sûr qu'on y réussisse, donc problème ouvert.
Et oui, chantier grand ouvert sur tous ces mystères de l'univers, comme le rappelle le physicien Marc Lachaiseret. Bonjour Françoise Combes.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous, pour nous éclairer justement, pour partager vos lumières, vos recherches, vos découvertes intergalactiques, cosmologiques. Alors un grand bravo d'abord, Françoise Combes, pour votre médaille d'or du CNRS, la plus prestigieuse distinction scientifique française, que vous n'êtes, il faut le souligner, que la 5e femme chercheuse à recevoir, hein.
Ah oui, c'est vrai qu'il y en a eu très peu, surtout les premières années. Je pense que pendant les 10 dernières années, le CNRS est en train de compenser, est en train de mettre plus de femmes dans ses récompenses.
Une récompense, une distinction plus que méritée. Alors, je ne dirais pas qu'elle couronne votre carrière de chercheuse, car vous nous réservez sans aucun doute encore plein de surprises et découvertes. Mais précisons, Françoise Combes, que vous êtes donc astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, professeure au Collège de France sur la chaire Galaxie et Cosmologie, enseignante et chercheuse à l'ENS, vous êtes membre de l'Académie des sciences, présidente du Comité français des unions scientifiques internationales, pionnière de la chimie du milieu interstellaire, vous êtes, pourrait-on dire, chasseuse, une chasseuse de galaxies qui s'éclaire au quasar, on va y venir. Vos travaux s'appuient à la fois sur des observations, mais aussi sur des simulations numériques. C'est vous, ça dit en passant, qui avez eu l'idée la première de réaliser les premières simulations numériques en 3D, en trois dimensions. Vos recherches ont entre autres permis de déterminer la température du fond cosmologique, mais aussi de prouver qu'au sein des galaxies, la formation des étoiles est ralentie par les trous noir supermassif, rien que ça. Autour de notre question du jour, comment percer les mystères de la matière noire, on peut ajouter que vous êtes une des, si ce n'est la spécialiste française de la matière noire, cette matière invisible qui composerait plus de 80% de la matière de l'univers, c'est ça? Mais on ne sait pas si elle existe. Enfin, c'est vraiment le Graal des astrophysiciens. Hein.
Voilà, oui, cette matière noire, c'est un mystère qui nous poursuit depuis des dizaines d'années, puisque c'est en 1930, hein, dans les années 30, que l'astronome Zwicky avait regardé les vitesses dans un amas de galaxies. Il y avait 1000 galaxies dans l'amas de coma. Il avait mesuré par effet Doppler ces vitesses et avait trouvé que s'il n'y avait pas énormément de matière, toutes les galaxies allaient partir et l'amas ne serait pas ce qu'il est, cohérent et comme une unité. Donc il avait déjà émis l'hypothèse de matière invisible, matière noire, qui retiendrait ces galaxies ensemble. En fait, il était très génial d'un certain côté, mm-hmm. mais il avait un caractère assez fantasque. Et certains côtés, il ne croyait pas par exemple au Big Bang, hein, il n'avait pas donc tous les éléments.
Un
caractère de sérieux, voilà, qui faisait que finalement personne ne l'avait suivi. Et puis peu à peu, dans les années 60-70, les astronomes ont fait des courbes de rotation, savoir comment tourner les galaxies autour d'elles-mêmes, à qui ressemblent comme des disques, mm-hmm. et ils sont aperçus que les vitesses étaient très grandes aussi. Donc par exemple, comme la Voie lactée, hein, le Soleil tourne très vite autour du Soleil. On en déduit donc la masse qu'il y a à l'intérieur du rayon du Soleil dans la galaxie. Et peu à peu, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de masse invisible, beaucoup plus que celle des étoiles que l'on voyait. Et ça, c'était vraiment, on commençait à croître. Ça, c'est Vera Rubin qui, dans les années 70, a vraiment observé des centaines de courbes de rotation de galaxies pour montrer qu'il y avait un problème et qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et peu à peu, les gens se sont vraiment convaincus.
Convaincus qu'il y a au fond, alors on dit matière noire, mais au fond, est-ce que ce n'est pas un terme pour dire finalement, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est la majorité de la matière de notre univers, on ne la comprend pas. Et ce noir cacherait ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas.
Oui, oui, en fait, on l'appelait noir parce qu'elle n'émet pas de rayonnement. En fait, on devrait l'appeler transparent parce que, en fait, le photon passe à travers. Par exemple, il y en a peut-être dans la pièce qui nous entoure ici, et donc on la voit pas. Simplement, la lumière passe à travers. Elle n'est pas noire, elle est transparente en fait. Elle n'interagit pas avec le rayonnement, pas avec la lumière. Donc c'est pour ça que. Alors pourquoi en a-t-on besoin ? Eh bien, on a besoin pour l'interaction gravitationnelle, la gravité de cette masse. On en a besoin pour expliquer pourquoi tout ce qui tourne autour le tourne rapidement. Maintenant, la seule solution qui pourrait nous éviter d'avoir recours à cette matière noire, ce serait de dire que la gravité n'est pas celle qu'on le croit. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile.
Et oui, il faudrait tout changer. Changer la loi de la gravité. Alors vous, Françoise Combes, vous êtes, j'ai l'impression, enfin je le sais, prête à tout pour découvrir si elle existe ou pas, même à tout remettre en question, vous l'avez dit, comme les lois de la gravité. C'est précisément tout le sens de la question que va vous poser tout de suite un de vos confrères. C'est l'astrophysicien David Elba, du CEA, auteur lui de « À la recherche de l'univers invisible », matière noire, énergie noire, trou noir, qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat de la soupe primordiale.
La question est la suivante. Françoise a exploré des modèles alternatifs à la matière noire, ce qui est courageux et ce qui est sain. Et j'aimerais qu'elle dise, en direct à la radio, en son fort intérieur, qu'est-ce qu'elle croit ? Est-ce que la matière noire existe ou pas ? Et elle n'a pas le droit de tricher.
Pas le droit de tricher, Françoise Combes. Alors, en direct, que pouvez-vous nous dire ?
Alors, ça, c'est une vraie question, mais je ne pourrais pas répondre ni par oui ni par non. Je suis complètement agnostique dans cette question. Et un scientifique ne doit pas, en effet, prendre parti. En fait, il y a plusieurs possibilités et on se doit de chercher toutes les possibilités comme une enquête policière, où il y a des pistes et il faut les suivre jusqu'au bout et ne pas avoir un préjugé, sinon on sera biaisé vers une solution plutôt qu'une autre. En fait, je n'en sais rien et donc j'essaie de tester par des simulations numériques pour savoir si les galaxies évoluent par de la matière noire ou alors par de la gravité modifiée. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais arrivé à départager les deux théories, c'est-à-dire que ça marche. Les deux théories marchent. Alors évidemment,
c'est-à-dire s'il y a de la matière noire s'il y a de la matière noire ou s'il n'y en a pas, on ne peut pas le déterminer.
Et voilà, les galaxies se comportent de la même façon. Alors, il y a des petits détails. Peut-être lorsqu'elles arrivent en interaction entre les galaxies, évidemment, la matière noire normalement ralentit une galaxie lorsque s'approche de l'autre, et elles vont spiraler les unes vers les autres très rapidement. En un tour, elles sont en train de fusionner. Lorsqu'il n'y a pas de matière noire, mais la gravité seulement modifiée, il y a beaucoup moins de friction dynamique et les galaxies tournent plusieurs fois, peut-être une dizaine de tours avant d'être freinées et tombées et fusionnées. Donc il y a moins de fusion de galaxies. Et ça, on ne peut pas le savoir de façon observationnelle. Ce qu'on voit, c'est les galaxies en paires. On ne sait pas s'il faut attendre 100 millions d'années ou 200 millions d'années ou 1 milliard d'années avant qu'elles fusionnent. Et donc, on ne peut pas résoudre le problème.
On ne peut pas résoudre le problème ni dans l'infiniment grand, ni dans l'infiniment petit, parce qu'on a à un moment pensé que les énormes accélérateurs de particules, par exemple, allaient peut-être nous permettre de percer les secrets de cette matière noire, de cette matière transparente.
Ah oui, exactement. C'est pour ça que le principal candidat depuis 1980-85, on s'est aperçu que les particules ne pouvaient pas être de la matière ordinaire. Ce serait de la matière exotique qui sortait du modèle standard de particules. On a appelé ça un WIMP, c'est-à-dire un Weakly Interacting Massive Particle. Et ces WIMP, ça fait 30 ans qu'elles sont les meilleurs candidats. Et normalement, elles devraient avoir 100 fois la masse du proton. pour que ça marche bien avec l'univers, pour que ça corresponde aux galaxies, etc. Et là, évidemment, on attendait dans le CERN, le collider de protons, en fait.
Grand accélérateur de particules de Genève.
Hein. Particules, et qui fait collisionner des protons entre eux. Alors la collision est tellement énergique que finalement on crée une énergie telle qu'on pourrait créer des particules qui seraient 100 fois la masse du proton. Donc un petit peu comme dans le Big Bang, l'énergie folle qu'il y avait au début de l'univers qui créait des particules, des antiparticules, etc. Ça, on peut le faire au niveau de la particule, bien sûr. On peut le faire au CERN. Et finalement, on a passé cette énergie, on est allé à 10 fois plus d'énergie et on n'a toujours pas vu cette particule. Donc ça, c'est un coup dur au meilleur candidat depuis les 30 dernières années. On pense qu'il n'est pas là.
Il n'est pas là. Comment le trouver? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on on a parlé de cette matière noire? Donc, on parle aussi d'énergie noire. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de noir, finalement, dans la physique et l'astrophysique? Encore une fois, est-ce que c'est une manière de mesurer, parce que les avancées sont considérables, mais c'est une manière de mesurer aussi l'avancée, de nos, enfin, l'étendue de nos incertitudes? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de noir dans la physique?
Oui, vous parlez ça, c'est sûr. Hein, c'est notre incertitude. Hein. On dit noir parce qu'on ne le voit pas.
C'est
invisible,
ça.
On devrait dire invisible. C'est pas noir, parce que comme on a dit, la matière noire, normalement, elle est transparente. On ne la voit pas. Et puis l'énergie noire, c'est quelque chose qui est arrivé en 1998. Grande surprise pour les astronomes. Mmh. Parce que l'on croyait que l'expansion de l'univers, que l'on connaît depuis Hubble en 1920-1930, on croyait que cette expansion était décélérée. Elle ne pouvait être que décélérée par toute la gravité de tout l'univers qui l'attire, en fait. Et donc, comme une pomme qu'on jette en l'air, évidemment la gravité fait retomber la pomme. Ici, l'univers, il est lancé au début par le Big Bang, il devrait retomber un peu comme un soufflet sur lui-même par sa propre gravité. Donc on s'attendait tous à une accélération négative, donc une expansion décélérée. Et en fait, on s'est aperçu en 98 que l'expansion s'accélérait, et bientôt de façon exponentielle. Donc ça, c'était un très gros mystère. Il a fallu inventer un autre élément, un cinquième élément, qui est l'énergie noire. Et cette énergie noire, elle est particulière, c'est que sa pression par rapport à sa énergie, la densité d'énergie, elle est négative, donc elle a une force répulsive, et c'est pour ça que l'expansion serait accélérée.
C'est pour ça que notre univers est en expansion accélérée. Autour de la question, comment percer tous ces mystères de la matière noire ou transparente, de l'énergie noire, on continue de s'interroger en musique sur RFI avec le groupe britannique Les Frictions et ce morceau de circonstance, Dark Matter.
Tear down the hollows. Take back eternity. Puppets learn to pull strings and cut down the user's lead. Don't stop, don't think. Climb up, come clean, blow back the
Matter, les frictions, ambiance très dark et très cosmique sur RFI. Autour de la question comment percer les secrets de l'énergie noire, de la matière noire, et ce n'est pas de la science-friction, nous sommes en compagnie de notre invitée, l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France et lauréate de la médaille d'or 2020 du CNRS pour ses travaux de recherche, pour ses découvertes sur la naissance et la mort des galaxies, les quasars qui les illuminent, les trous noirs et cette fameuse matière noire, cette grande inconnue, cette grande énigme qui reste à trouver, à prouver. Mais comment? C'est Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de Ciel et Espace, qui vous interroge, Françoise Combes.
Pour moi, la question que je pourrais lui poser, tout simplement, c'est quelle est aujourd'hui la meilleure piste pour essayer de trancher cette question de la matière noire? Est-ce que ce sont les détecteurs de particules qui sont enfouis sous des montagnes et qui pour l'instant n'ont rien détecté, ou est-ce que ce sont encore les observations astronomiques de milliers de galaxies qui vont permettre de trancher? Quelles sont pour elles les observations ou les expériences qui permettront de trancher enfin sur l'existence ou non, sur la nature même de cette matière noire, si jamais elle existe?
À votre avis, Françoise Combes, de quel côté, quelle piste faut-il encore explorer pour prouver ou non d'ailleurs l'existence de la matière noire?
Oui, je pense qu'on peut explorer toutes les pistes, hein. Il faut bien continuer. D'ailleurs, on cherche dans les tunnels ces particules et on a jusqu'à présent des résultats négatifs. Mais c'est intéressant le résultat négatif, car si on en avait eu un positif, on serait tous tournés vers l'existence de ces particules. Donc il faut continuer. Je pense qu'on en est très très bas maintenant. On a des limites supérieures très positives, enfin très intéressantes. Mm-hmm. Donc on n'a rien trouvé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas avec ça. Hein. Ce sont des expériences qui nous font progresser. Et évidemment, la cartographie des galaxies va aussi nous apprendre beaucoup. On va lancer en 2022 le satellite Euclide, mm-hmm. qui justement est là pour déterminer le mystère de l'énergie noire. Et pour cela, on va cartographier 12 milliards de galaxies. Ça va être énorme. En 5 ans, on va pouvoir cartographier ces 12 milliards à différentes époques, un petit peu en remontant le temps, aujourd'hui jusqu'au Big Bang. Et donc, l'histoire de ces galaxies va nous montrer est-ce que l'énergie noire est un cinquième élément, une dynamique, ou bien simplement une constante cosmologique. On ne sait pas encore si elle est constante ou pas. Et puis, tout cela va nous donner, par les lentilles gravitationnelles, la diffraction des rayons lumineux par les galaxies va nous tester aussi la matière noire. Donc on va connaître tout le secteur noir, matière et énergie noire, avec l'observation de ces 12 milliards de galaxies. Donc dans le futur, on va se servir de toutes ces deux pistes.
C'est fou d'ailleurs comme ça avance, enfin à pas de géant tout de même, l'astrophysique, l'astronomie. En même temps, en vous entendant, on se rend compte que finalement quand on ne trouve pas, c'est pas grave, enfin vous cherchez plutôt que trouver. Je trouve ça assez vertigineux, alors encore plus vertigineux si j'ose dire, enfin je sais pas si c'est encore plus, mais en tout cas là il s'agit d'événements les plus cataclysmiques de l'univers. Vous avez aussi, et vous travaillez toujours beaucoup, on est toujours dans le noir, hein, mais cette fois-ci, c'est au bord des trous noirs. Hein. Notre connaissance a fait des pas de géant, là encore, première image d'un trou noir. Mais en quoi et comment vous avez travaillé là-dessus? Et quel est le lien, finalement? Parce que vous travaillez sur la naissance et la mort des galaxies, et c'est évidemment au bord des trous noirs que ça se passe, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, les galaxies vivent en symbiose avec les trous noirs. Alors, il y a des trous noirs de plusieurs tailles, hein, des trous noirs de masse stellaire, qui existe lorsque une étoile en fin de vie explose en supernovae. C'est assez massif, toute la masse va s'effondrer en trous noirs. Donc ça, c'est des petits trous noirs, et ça, on en a eu très récemment grâce aux ondes gravitationnelles qui ont été détectées en 2016.
Quand on a
des fusions.
Oui. Quand vous dites, François, je vous interromps, parce que quand vous dites des petits trous noirs, c'est quoi des petits trous noirs?
Alors c'est une, deux, trois fois la masse du Soleil.
D'accord, d'accord.
C'est des masses stellaires, des étoiles, quoi, des grosses étoiles.
Et ça, c'est un petit trou noir, hein.
Ça, c'est un petit trou noir. C'est un petit trou noir. Et on en a vu par les fusions de trous noirs, les ondes gravitationnelles qu'ils émettent à leur fusion, parce que c'est quand même deux titans qui fusionnent et ça fait énormément de perturbations de la gravité. Et donc la gravité, comme on sait d'après Einstein, c'est une perturbation de l'espace, c'est une onde dans l'espace. Donc il y a des déformations de l'espace qui vont se propager jusqu'à nous. On a détecté aujourd'hui, après la première grande nouvelle en 2016, on a détecté une cinquantaine de fusions de trous noirs. Donc on apprend beaucoup avec ces fusions de trous noirs, avec ces ondes gravitationnelles. Et puis, d'autre part, pour les galaxies, il y a des supermassifs, des trous noirs supermassifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 million à 1 milliard de fois la masse du Soleil.
C'est fou. C'est là-dessus que vous travaillez particulièrement,
voilà.
Françoise
Combes. C'est là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a un par galaxie. On sait maintenant, depuis de 20 ans maintenant, qu'il y a un trou noir supermassif dans chaque galaxie. Il se trouve au centre, hein, comme une araignée autour de sa toile, pour simplement parce qu'il est tellement gros que par freinage dynamique, il va tomber au centre fatalement.
C'est complètement faux. Autour de la question, comment percer les secrets, cette fois-ci, des trous noirs, hein, ces trous noirs qui, comme le disait Stephen Hawking, sont plutôt un peu gris sur les bords. Françoise Combes, vous avez également travaillé avec les lauréats des prix Nobel de physique cette année, hein, 2020, les attrapeurs de trous noirs, hein, que sont l'Allemand Rainer Genzel, l'Américaine Andrea Ghez. Vous allez nous expliquer comment, d'ailleurs, hein, comment vous avez travaillé avec eux. Mais avant, j'aimerais bien vous faire entendre la voix et l'humour décalé, si british, de l'autre récipiendaire de ce prix Nobel 2020 pour la partie théorique, le physicien britannique Sir Roger Penrose. Extrait du podcast Jim Rogan Experience, dans lequel Sir Roger Penrose explique comment il en est venu à théoriser autour et sur la singularité des trous noirs. Écoutez, ça vaut le détour.
The idea, it's hard to explain, but let me try.
L'idée, c'est très difficile à expliquer, mais je vais essayer. Ça m'est venu parce que je m'inquiétais de notre avenir très lointain et je me disais, ok, ces trous noirs, quand ils sont dans les parages, ils avalent toutes les étoiles autour d'eux, et puis quoi, ils restent là. Qu'est-ce qu'il peut se passer après d'un peu plus excitant? Eh bien, l'évaporation de Hawking. Les trous noirs vont rayonner en quelque sorte. Stephen Hawking a montré que les trous noirs avaient une température extrêmement basse. Ils sont tellement froids, cela en devient absurde tellement ils sont froids. Beaucoup plus froids que tout ce qui existe sur Terre. Mais quand l'univers se dilate, et se dilate, et se dilate, il devient plus froid que les trous noirs eux-mêmes. Et donc, ces trous noirs deviennent les éléments les plus chauds de leur environnement. Et ils rayonnent très, très lentement. C'est ça le rayonnement de Hawking. Et cela dégage de l'énergie. Du coup, les trous noirs rétrécissent et rétrécissent de plus en plus. Et finalement, pop, ils disparaissent. J'ai dit pop, mais c'est probablement une explosion assez importante. Mais pas si importante que ça à l'échelle cosmologique, astrophysique. Donc, les trous noirs disparaissent.
Well, it may have been pretty boring when you're sitting around waiting for the black hole to go pop. But afterwards, that's really boring.
Ça peut sembler assez ennuyeux quand vous êtes là à attendre que le trou noir explose. Mais ce qui se passe après, c'est pire, c'est encore plus ennuyeux. Et c'est à cela que j'ai pensé. Et ça m'a un peu déprimé de penser que c'était ça notre destin. Le destin de toutes les choses intéressantes qui se produisent, le destin ultime, c'est cet état final incroyablement ennuyeux.
Ok, this is an emotional argument, but give me a bit of leeway. So I began to think.
D'accord, c'est un argument émotionnel, mais ça m'a ouvert une autre perspective. J'ai donc commencé à penser que ce n'est pas nous qui allons nous ennuyer, parce que nous ne serons plus là. Tout ce qu'il restera alors, ce sera les photons. Et c'est assez difficile d'ennuyer un photon, pour deux très bonnes raisons. L'une est qu'il n'a probablement pas de conscience. Mais l'autre raison est plus scientifique. Il ne mesure pas le temps, parce qu'un photon n'a pas de masse. Il voyage à la vitesse de la lumière. Et d'après la façon dont la relativité fonctionne, cela signifie que le temps ne s'écoule plus, si vous voulez. Alors, si le photon avait une conscience, le moment de sa création serait un instant, et l'instant suivant serait l'infini. Donc, il glisse simplement vers l'infini, sans se rendre compte de rien.
L'infini, c'est long, surtout vers la fin, mais pas tellement pour un photon. Est-ce que vous voulez réagir, François Combes, à ce que
oui,
vient de dire Sir Roger Penrose?
Il est formidable d'humour et en effet, c'est une personnalité en relativité générale. Il a fait beaucoup de la mathématique de la relativité générale et c'était celui qui a prouvé que justement la théorie d'Einstein montrait qu'il y avait des trous noirs fatalement. Alors ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le remercie pour le prix Nobel cette année, c'est que il y a 20-30 ans, on ne croyait pas aux trous noirs, on pensait que c'était impossible que toute la masse d'une étoile, ou même beaucoup plus, se retrouve dans un point, une singularité. Même Einstein n'y croyait pas, hein. Il trouvait que la singularité, c'était absurde. Il ne croyait pas un trou noir. Alors que allait-il se passer lorsqu'une supernovae explose et qu'il y a une masse qui collapse, qui s'effondre comme ça, et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on pensait que bon, peut-être qu'on s'était trompé, il n'y avait pas un effondrement symétrique, que c'était complètement dissymétrique, qu'il allait rayonner, que la matière allait s'en aller d'un côté et de l'autre, et que finalement, on n'avait pas la masse suffisante qui allait rester pour former un trou noir. Alors, tout ça, c'est assez curieux de le penser maintenant, parce que tout le monde croit au trou noir aujourd'hui.
Oui, oui.
Mais il y a 30 ans, on n'y croyait pas.
C'est ça, d'avoir le pouvoir imaginer, enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un astrophysicien comme ça, mais, ou dans la vôtre, mais pouvoir imaginer, théoriser quelque chose qui semble impossible, incompréhensible.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, hein.
Une masse qui s'effondre en un point, donc une densité infinie. Ça, mathématiquement, ça n'avait pas de sens. Et donc, il a montré... Et d'ailleurs, avec ensuite Hawking, qui a travaillé avec lui ensuite, mais dans les années 60-70, il a montré que c'était inévitable qu'il fallait qu'il y ait un trou noir. Mathématiquement, il a fait les équations d'Einstein, qui sont assez complexes, et il a montré que ça allait directement au trou noir et qu'il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Ça, c'était un des premiers succès qui lui a donné une grande aura toute sa carrière.
Ouais, ce Roger Penrose. Alors ensuite, il y a eu des véritables attrapeurs de trous noirs qui ont donc été récompensés par le prix Nobel de physique cette année avec Roger Penrose, donc Reinhard Genzel et l'américaine Andrea Ghez, avec lesquels vous avez travaillé, collaboré, parce que vous aussi, vous êtes une attrapeuse de trous noirs.
Oui, en fait, sur le trou noir du centre de la galaxie pour lequel ils ont eu ce prix Nobel, je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai travaillé avec Reinhard Genzel, en effet, sur les galaxies, parce qu'il travaille à la fois sur les trous noirs et sur les galaxies. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Reinhard Genzel pour les galaxies, et pour les galaxies dans le temps, en fonction de temps de Hubble, c'est-à-dire toute l'âge de l'univers. Mais en ce qui concerne les trous noirs, donc pourquoi il cherchait depuis longtemps à mettre en évidence le trou noir qu'il y a dans notre propre galaxie, la Voie lactée, les deux groupes, hein, à la fois le groupe européen, avec Reinhard Genzel, mais aussi avec d'autres... qui sont dans l'Observatoire de Paris, par exemple Guy Perrin et d'autres, ils ont construit des instruments d'optique adaptative, hein, c'est-à-dire des instruments qui permettaient de s'affranchir de la turbulence de l'atmosphère pour voir des petits détails très très loin, parce que notre galaxie est très grande. Et le trou noir qui est au centre de la Voie lactée, il est quand même à 20 000 années-lumière de nous. Donc il fallait vraiment avoir une très très petite... une loupe pour voir un peu le centre de la galaxie.
Aussi loin dans l'espace, aussi loin dans le temps, c'est ça. Hein.
Aussi loin, et puis aussi avec beaucoup de résolution de l'espace. Puis, il fallait le regarder en infrarouge aussi, parce que si vous regardez la Voie lactée dans le ciel, en optique, la lumière qui nous est visible à l'œil, eh bien, vous voyez de la poussière qui absorbe la lumière des étoiles derrière, et vous ne voyez pas le centre de la galaxie. En fait, pour traverser la poussière, il faut de l'infrarouge, c'est-à-dire un micron de longueur d'onde. Alors là, ils ont fait, avec le très grand télescope de l'ESO au Chili, des instruments d'optique adaptative, et parallèlement, le groupe américain, avec Andrea Ghez, a fait la même chose avec des instruments à Hawaï, le télescope Keck à Hawaï, avec des instruments d'optique adaptative aussi, pour voir les étoiles qui tournent autour du trou noir. Mais ces étoiles, elles sont très très proches. Elles passent à des minutes et des quarts d'heure lumière du trou noir.
Sans être absorbées.
Sans être absorbées, parce que même un quart d'heure lumière, c'est très loin par rapport à l'horizon du trou noir. L'horizon, c'est le rayon au-delà duquel il faudrait avoir plus que la vitesse de la lumière pour s'en échapper. Donc même la lumière ne s'en échappe pas. Et donc vous tombez inexorablement dans le trou noir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon. Et les étoiles passent très proches, mais elles sont quand même à 1000 ou 2000 fois le rayon de l'horizon. Donc elles ne s'en aperçoivent pas.
Et donc, pour arriver... finalement, c'est jamais le trou noir lui-même qu'on observe, on est d'accord, hein, c'est ce qui se passe autour, c'est ça, hein.
Voilà, c'est exactement ce qui se passe autour. Alors, il y a deux choses. Les étoiles, alors, ils ont vu une cinquantaine d'étoiles en infrarouge, en les suivant. Alors, il y en a une qui est celle qui a été le plus observée par les deux groupes, américains et européens, qui est l'étoile qu'on appelle S2, bon, peu importe, mais c'est une étoile qui tourne en 16 ans. Il fait le tour en 16 ans. Donc depuis 1990, on a déjà vu qu'elle a fait un deuxième tour. Elle a fait son périscente, c'est-à-dire l'instant le plus proche du trou noir, en avril 2018, il y a 2 ans. Et ça a permis, à cet instant-là, de montrer tous les effets relativistes, c'est-à-dire de confirmer encore la théorie d'Einstein, relativiste, autour d'un trou noir. C'est la première fois que ça avait été fait. Et donc, elle est passée à 16 minutes lumière de...
Du trou noir au centre de notre galaxie.
Tout et ça... la vitesse atteinte était 7000 km par seconde.
7000 km. Tout ça semble complètement fou, effectivement vertigineux. On se rend bien compte en vous écoutant que ce sont aussi des équipes de chercheurs passionnés qui arrivent à fabriquer les instruments qu'il faut pour observer, qui travaillent ensemble. C'est une communauté d'astrophysiciens et d'astrophysiciennes, même si certains sont récompensés pour le prix Nobel, pas d'autres. Il y a probablement de la compétition, mais il y a quand même une formidable solidarité, pour le coup, internationale.
Parce que
c'est ça, franchement, il y a ça.
Ah oui, l'astrophysique marche de façon internationale depuis très longtemps, surtout pour partager les instruments, les télescopes. Aujourd'hui, on a les télescopes européens, toute l'Europe y participe, on a des télescopes américains, mais l'étape ultérieure, par exemple, dans les ondes millimétriques, nous avons un instrument qui s'appelle ALMA au Chili, dans le désert d'Atacama. Et ça, c'est un instrument à la fois américain, européen, japonais. Donc, on se met au monde entier. Et dans le futur, on a, dans les ondes centimétriques, ce qu'on appelle SKA, qui va être en Australie et en Afrique du Sud. Et là, tout le monde s'y met, même la Chine, les Européens, les Américains, et tout le monde s'y met.
Pas de frontières dans le cosmos, dans l'univers, autour de la question comment percer justement les secrets des trous noirs, de la matière noire et des galaxies, Françoise Combes. Je sais que vous trouvez parfois l'inspiration et l'aspiration dans des musiques qui nous dépassent. Elle aussi, vous avez choisi d'écouter un extrait de l'adagio d'Albinoni sur RFI. Extrait de l'adagio d'Albinoni sur RFI, c'est votre choix musical, Françoise Combes. Et ça fait du bien par où ça passe. Oh, on continue de remonter le temps autour de la question comment percer les secrets de la matière noire et des galaxies. Vous êtes, Françoise Combes, parmi tous vos centres de recherche, d'intérêt et de découverte, intéressée à la naissance des galaxies. Et donc aux gaz moléculaires qui forment les étoiles. Vous êtes une pionnière de la chimie du milieu interstellaire. Vous êtes devenue ce que certains pourraient appeler une chasseuse de molécules extragalactiques. Et pour ce faire, vous avez vous aussi mis au point de nouvelles techniques. En vous éclairant, enfin je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais en vous éclairant à l'aide des quasars, c'est ça, des molécules ?
Oui, les quasars. En
des
fait,
quasars.
On appelle quasar parce que c'est une quasi-star. On a inventé,
quasi-étoile.
On a trouvé. Quasi-étoile, voilà. Et donc, qui est-ce qui l'a inventé ? En fait, c'est Martin Schmidt, le célèbre astronome Martin Schmidt. On connaissait depuis les années 50, il y avait des radiosources, des sources qui émettent dans la lumière radio très forte, on ne savait pas où elles étaient, on voulait savoir à quoi elles correspondaient de façon optique, dans la lumière optique. Et on avait vu qu'il y avait des étoiles, des points. des points très lumineux qui correspondaient avec ces sources radio, mais on avait des spectres hein, bizarres. Lorsqu'on faisait le spectre de la lumière, on voyait des raies complètement inconnues. Mmh. Et c'est Martin Schmidt qui, en 1964, a eu l'idée de dire « Ah, mais c'est parce que ces raies sont décalées vers le rouge d'un grand facteur. » Et en fait, ces étoiles, elles ne sont pas très proches, elles sont très très loin dans l'univers, et par l'effet Doppler, par l'expansion de l'univers, elles sont décalées vers le rouge. Et donc, à ce moment-là, on s'est aperçu que ce sont des points, parce qu'en fait, c'est le disque d'accrétion qu'il y a autour d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Elles sont tellement loin qu'elles sont très très brillantes et on ne voit pas la galaxie. C'est-à-dire que le quasar peut émettre 1000 fois plus que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Donc quand il y a 200 milliards d'étoiles, ça vous donne une idée de la puissance du quasar.
C'est ça, la puissance du quasar qui finalement, sa puissance éclaire tellement qu'elle cache, qu'elle masque les milliards d'étoiles de la galaxie.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on l'appelait quasi-star, on ne voyait qu'une étoile.
Et comment vous avez eu l'idée de vous en servir, si j'ose dire, c'est ça. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais pour éclairer justement les galaxies, les premières galaxies, la naissance des galaxies.
En fait, les quasars peuvent être vus très très loin. Donc ce sont des jalons en quelque sorte. Ils peuvent être, on peut remonter le temps avec eux. Et puis surtout, ils illuminent toute la ligne de visée qu'il y a entre eux et nous. Donc on peut s'imaginer une ligne, un segment qui les rejoint. Et à ce moment-là, s'il y a de la matière entre eux et nous, il y a de l'absorption. Donc il y a des galaxies que l'on ne voit pas sur la ligne de visée, mais qu'on peut voir par absorption de la lumière du quasar. Elle est tellement forte qu'il suffit d'un tout petit peu de matière pour absorber. Alors que cette matière, en émission, on ne la verrait pas. Elle serait trop faible. Donc cette technique, c'est qui est très très général, hein, que tout le monde utilise maintenant, et qu'on peut avoir quelques molécules seulement sur la ligne de visée, et s'il y a un quasar derrière, on va les voir, alors que s'il n'y a pas de quasar derrière, on ne les verra pas.
Comment voir l'invisible? En juillet dernier, un groupe international d'astrophysiciens a publié la plus grande cartographie de l'univers en trois dimensions. Trois dimensions, d'ailleurs, vous avez été une des premières à penser qu'on pouvait effectivement voir l'univers en trois dimensions. Une carte qui s'appuie sur 20 ans d'observation de l'espace, qui permet de remonter jusqu'à 11 milliards d'années. Nous en avions parlé avec l'astrophysicien Jean-Paul Knepp de l'École Polytechnique de Lausanne, qui a réalisé lui le dernier relevé, hein, qui a permis de compléter, de constituer cette carte de l'univers. Et du coup, Jean-Paul Knepp a eu envie de nous laisser une question pour vous. Je propose de l'écouter, Françoise Combe.
Françoise est aussi bien placée sur la formation des premières galaxies. Peut-être savoir si elle pense qu'un jour, on va voir les premières galaxies dans l'univers.
Votre réponse, Françoise Combe.
Ah oui, j'en suis certaine.
Ah, vous en êtes certaine.
Jean-Paul Knepp aussi en est certain. Pourquoi ? Parce que il nous faut des instruments plus puissants. Pour l'instant, on remonte le temps jusqu'à 400 millions d'années après le Big Bang, où on commence à voir les premières galaxies. Ça, c'est avec le télescope spatial Hubble, et puis aussi avec le télescope ALMA, en regardant les premières molécules qui ont donné les premières étoiles à cette époque-là. Par contre, on va lancer un autre télescope, le James Webb. Le télescope spatial qui normalement aurait dû être lancé déjà l'an dernier, mais qui va peut-être être lancé l'an prochain. Il y a toujours un peu de retard à ces satellites. Et donc, ça va être un peu un remplaçant du télescope Hubble, qui est en fin de vie actuellement, et qui va être lancé, c'est un 6 mètres de diamètre. Et donc, il a beaucoup plus de surface que le Hubble. Et donc, on va pouvoir être sensible à des galaxies plus lointaines. Donc, on va pouvoir obtenir enfin les premières galaxies, les galaxies primordiales, que l'on ne pouvait pas encore voir avec Hubble par manque de sensibilité.
Et qu'est-ce que vous espérez de voir justement ces premières galaxies dans l'univers, qu'on remonte plus loin dans le temps? Vous avez dit, on ne peut pas remonter jusqu'au Big Bang, on est sûr du Big Bang, mais il y a un âge sombre entre les deux, mais de remonter plus loin dans le temps, dans l'espace?
Oui, un petit peu plus loin. Alors on sait qu'il se forme déjà des galaxies à 200 millions d'années, et on a été très surpris de voir qu'il y avait des trous noirs supermassifs au centre de ces galaxies. Parce qu'on s'imaginait que le trou noir arrive un petit peu après. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des étoiles qui se forment, des amas globulaires qui se forment avec des trous noirs qui augmentent peu à peu de masse. Il faut bien commencer avec une masse de l'ordre de la masse solaire, puis ensuite fusionner, puis en... Donc on s'imaginait que les trous noirs supermassifs de milliards de masses solaires ne seraient là qu'aujourd'hui. Et on s'est aperçu qu'ils étaient là très tôt dans l'univers, à 200 millions d'années après le Big Bang. On avait déjà des trous noirs supermassifs de millions et milliards de masses solaires. Donc pourquoi? Comment s'est-il passé peut-être y a-t-il eu effondrement d'une étoile supermassive l'on ne voit pas aujourd'hui. Hein. Alors pourquoi on pense qu'il peut y avoir des étoiles plus grosses autrefois? C'est qu'il n'y a pas de métaux. De métaux, c'est tous les éléments qu'il y a plus que l'hélium, par exemple, le carbone, oui. L'azote, mm-hmm. l'oxygène, tous les éléments dans lesquels nous sommes faits, nous, mm-hmm. ils ont été formés dans les étoiles. Donc avant, il n'y avait pas d'étoiles, puisque c'était les premières mm-hmm. étoiles. Donc on avait un gaz, hydrogène avec un peu d'hélium, qui s'est formé dans le Big Bang, et c'est tout. Et donc les métaux n'existaient pas, et on ne pouvait pas refroidir le gaz. Donc il était très très chaud, il ne se fragmentait pas. Donc on imagine qu'il y a d'énormes étoiles qui se forment, 1000, 2000 masse solaire, alors qu'aujourd'hui ce n'est que 10 à 20 ou 100. Et donc peut-être que ces étoiles peuvent s'effondrer directement d'un trou noir et commencer une série de trous noirs très massifs. Vous voyez, ça, tout ça, c'est des spéculations. Et donc on aimerait bien connaître les premières galaxies, comment elles se forment, parce qu'il y a un effet de début. Hein. On voit bien qu'il y a, comme il n'y a pas de premières étoiles, il n'y a pas de métaux, et donc on ne peut pas les refroidir le gaz, etc.
Jusqu'où peut-on remonter dans l'origine, dans la naissance des galaxies? Ça laisse songeur, ça laisse rêveur, et ça inspire même les rappeurs. Le rappeur Pledge, sur RFI tout de suite, Galaxie lointaine.
Au ciel, éviter un temps la vue des détritus au sol. Je rêve galaxie lointaine, anarchie bancaire. Je m'évade en pensant plus loin et pas à notre vie sur terre. J'ai lu, j'ai écrit sur la lune depuis tout petit. Je m'étire les neurones, l'appétit est venu sans euros ni même une équipe. En solo lors d'une soirée de crise, mon texte est anecdotique. L'essentiel est que vogue l'esprit, les deux pieds sur terre, je m'en tape. Traite-moi d'handicap et mental, juste envie de baquer mon rap. Je m'alimente d'air pur en maniant la plume. Posé face à la nature, enfance qui dure jusqu'à l'âge adulte. C'est cosmique en osmose avec les ovnis. C'est le plaisir de regarder en haut l'impossible. Quelques croquis de texte, l'heure est propice pour dessiner la terre.
C'est le plaisir de regarder en haut l'impossible. Le cosmique rappeur Pledge, Galaxie lointaine sur RFI, en compagnie de l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire de cosmologie et galaxie, lauréate de la médaille d'or 2020 du CNRS, autour de la question comment percer les mystères de l'univers, de la matière noire, des galaxies, nouvelle question quasiment métaphysique soulevée par le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui était récemment notre invité autour de la quête de sagesse.
Peut-être demander comment, pour elle, et de son point de vue, cette prise de conscience de l'immensité de l'univers et de la complexité et la durée de l'univers pouvait nous inspirer à prendre une certaine perspective par rapport à tous les défis que nous avons aujourd'hui et qui sont souvent très concentrés dans des choses très étroites, comment prendre de l'ampleur, comment prendre de la largeur et comment mieux adresser les défis de notre temps en prenant une perspective beaucoup plus large.
Est-ce que vous auriez des réponses, des pistes pour nous, Françoise Combes?
Ah oui, Mathieu Ricard a tout à fait raison. Quand on regarde l'univers, son immensité et sa sérénité dans un certain sens, on ne s'imagine pas combien l'univers est énorme. Énorme. Mm-hmm. Et donc, on prend du recul et on voit bien que nos problèmes sont tout petits. On s'en aperçoit aussi quand on essaie de trouver des planètes extrasolaires, donc d'autres mm-hmm. mondes, oui. comme le nôtre. Et on en a découvert ces 20 dernières années, 4000 à peu près, mm-hmm. tout au voisinage du Soleil. Et on sait qu'il y a encore plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée, donc il y en a avoir des milliards, des milliards. Et on a compté même ceux qui pourraient être habitables. Il y en a 300 millions dans la Voie lactée qui seraient habitables, avec une planète rocheuse comme la Terre, à une distance qui est à peu près la distance Terre-Soleil de leur étoile qui est à peu près comme le Soleil. Donc ça fait rêver et on pense qu'en effet, il doit y avoir peut-être des gens qui se posent la même question et qui prennent du recul en regardant l'univers comme nous. On aimerait bien le prouver, ça. Y a-t-il de la vie quelque part? On est en train de chercher, ça c'est une activité très importante aujourd'hui.
Mais absolument, c'est une quête formidable et qui concerne évidemment tous les astrophysiciens et qui rend effectivement cette immensité, cette complexité, l'étendue de vos connaissances et de notre ignorance collective. Est-ce que parfois vous avez une grande qualité, Françoise Combes? Je trouve que vous nous faites comprendre, approcher, vous n'hésitez jamais à répondre à toutes nos questions les plus les plus simples et idiotes, j'ai envie de dire qu'elles soient. Enfin, et vous y répondez tout de suite. Est-ce que vous ne ragez pas un peu parfois devant justement notre monde, nos tergiversations, nos violences? Enfin, quand vous êtes vous à ce niveau-là, je sais pas comment vous faites pour rester. Je ne veux pas vous lancer plein de compliments, mais pour rester humble, modeste et pour partager comme ça avec nous et continuer vos recherches.
Oui, ça c'est sûr que nous avons des connaissances, des recherches, nous faisons des découvertes. Et le plaisir, c'est de les partager, parce qu'évidemment, si on découvre quelque chose tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, bon, à part la première découverte, il faut absolument le partager. Et donc, il y a un plaisir de partager, un plaisir d'expliquer et de faire comprendre. Et lorsque les autres comprennent, on est vraiment très content. Donc, je pense que c'est un plaisir, surtout, de partager et de faire connaître.
Et vous ne ragez pas un peu quand vous pensez à nos, je sais pas, à nos dirigeants, à nos gouvernants? On a l'impression que, quand on vous écoute, quand on est dans une émission avec des astrophysiciens, on ouvre les fenêtres, on ouvre tout. Il y a plein de points d'interrogation, mais ça ouvre. Vous n'avez pas envie de parfois nous dire ou de dire à ceux qui sont moins dans les étoiles que vous, mais ouvrez un peu les yeux.
Il faut prendre recul, ne pas être seulement dans le guidon, mais il faut quand même bien dire que tous ces dirigeants qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes, ils sont vraiment sur la corde raide, hein, la craie, donc on ne va pas leur jeter la pierre. Tout de même, ils font de leur mieux. Donc je pense que c'est plutôt un respect de leur travail. Et puis nous, on a la chance de pouvoir s'évader. Ils n'ont pas forcément la chance de pouvoir le faire. Hein. Nous, on a la chance d'être un petit peu en dehors et de s'évader dans l'univers, ce qui est un avantage, un privilège.
Jusqu'où aimeriez-vous vous évader, Françoise Combes? Je ne sais pas si c'est trouver qui vous intéresse le plus, mais quel serait votre Graal à vous?
Je pense que c'est trouver. On trouve toujours des petites choses. Hein. Bon, évidemment, l'origine de la matière noire, ça ne va pas se trouver d'ici demain, hein, c'est sûr. Mais il y a toute la hiérarchie de découvertes. Il y a des découvertes révolutionnaires, puis il y a des découvertes moins grandes, et puis des petites... Et on est sans cesse, on trouve, hein, on n'est pas toujours en train de chercher, on trouve toujours et rien que des petites découvertes, même sans, parfois on découvre sans les chercher, parfois on fait des recherches en sachant d'abord ce qu'on cherche, hein, et on le trouve, ça c'est moins surprenant, et parfois on découvre autre chose que ce qu'on cherchait, et ça c'est le plus satisfaisant, parce qu'on dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a eu de chance.
Merci infiniment. Nous, on a eu la chance de vous avoir avec nous pendant une heure, Françoise Combes. Partagez votre vertigineuse science cosmologique. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez, Françoise Combes. D'autant que nos auditeurs sont très friands d'espace, d'astronomie. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler, chers amis auditrices et auditeurs, notre nouvelle chronique mensuelle, Ciel d'Afrique, en partenariat avec une nouvelle revue web, L'Astronomie Afrique, tous les 15 du mois environ. Nous vous proposerons un éphéméride vu du continent et des conseils d'observation pour tous les astronomes amateurs sous le ciel d'Afrique, histoire d'encourager l'astronomie, bien sûr, l'observation des étoiles sur le continent et d'ouvrir nos esprits respectifs. On vous en reparlera, il y aura aussi d'ailleurs des lunettes astronomiques à gagner sur le continent en partenariat avec l'Astronomie Afrique. À bon entendeur, je vous salue ma chère Françoise Combes.
Merci, au revoir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous réécouter, à nous podcaster à volonté. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, chers amis. Il sera question de la vie des oiseaux. Sous leurs ailes protectrices, nous parlerons sexualité, amour, vie de couple et vie familiale chez les oiseaux. Programme aéré, aérien à suivre avec Hugo Violas à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à l'écoute du cosmos, à l'écoute de RFI pour l'instant. C'est bientôt l'heure du prochain journal.